Jesus Christus.
Plusieurs centrales thermiques en Ukraine gravement endommagées ce matin par de nouvelles frappes russes. Une riposte à l'utilisation d'armes américaines de longue portée selon le Kremlin. Retour sur ces nouvelles agressions au début de ce journal. La Turquie et les États-Unis plaident côte à côte pour une Syrie stable et qui sache lutter contre le terrorisme. Le secrétaire d'État américain Blinken est à Ankara depuis hier. Mais le devenir des Kurdes divise les deux pays. Nous retrouverons sur place notre correspondante. Dans ce journal également, à deux jours de la visite du pape à Ajaccio, gros plan sur ce collectif corse qui veut interpeller le Saint-Père sur le poids de la mafia locale. Et puis nous reviendrons aussi sur l'Éthiopie et la Somalie qui se réconcilient. Les deux pays ont signé un accord qui permet de garantir un accès à la mer à Addis Abeba, la fin de plusieurs mois de tensions diplomatiques.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Une nouvelle pluie de missiles a visé l'Ukraine ce vendredi matin, symbole d'un nouvel hiver rude pour des millions d'Ukrainiens, le troisième d'affilée depuis le début de la guerre. Et ce sont une nouvelle fois, Jean-Benoît Harel, les infrastructures énergétiques du pays qui ont été visées.
Oui, Olivier, 12e attaque massive cette année contre le secteur énergétique ukrainien. Ce matin, a indiqué un fournisseur privé d'électricité. Conséquence, de nombreuses coupures de courant à travers le pays en pleine saison hivernale où les températures peuvent descendre à moins 10 degrés. Les ingénieurs sont sur le pont pour tenter de réparer au plus vite les dommages, assure le ministre de l'Énergie, mais les Ukrainiens sont malheureusement habitués à ces pénuries. Depuis 3 ans, la Russie cible les infrastructures énergétiques, plongeant dans le noir et le froid des millions d'Ukrainiens. La moitié des capacités de production d'électricité a déjà été détruite depuis le début de la guerre, selon l'Agence internationale de l'énergie. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien a, lui, lancé un appel à ses alliés pour la livraison de toute urgence de 20 systèmes de défense aérienne, alors que ses alliés, eux, occidentaux pour la plupart, se penchent sur la question d'un cessez-le-feu. Le futur président américain Donald Trump a d'ailleurs déjà prévenu que l'Ukraine devait s'attendre à, je cite, « probablement moins d'aide de la part de Washington ». Ainsi, le mot de négociation commence à se répandre alors que Kiev est à la peine militairement. Depuis des mois sur la ligne de front, les soldats ne parviennent pas à enrayer les avancées de la Russie, forte d'un avantage en nombre d'hommes et d'armes et de munitions.
Merci Jean-Benoît Harel. Hier, les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire à Kiev de 500 millions de dollars. Il s'agit notamment d'obus d'artillerie, de drones ou encore de véhicules militaires. Ce matin, le Kremlin a jugé que les conditions préalables à des négociations sur l'Ukraine n'étaient pas réunies. Et puis toujours concernant l'Ukraine, un salut amical à nos confrères du programme ukrainien de Radio Vatican qui célèbre aujourd'hui son 85e anniversaire, un lien indéfectible entre le Saint-Siège et le peuple ukrainien. La Moldavie, elle, instaure l'état d'urgence pour 60 jours et ce en prévision de l'interruption attendue des livraisons de gaz russe dans la région séparatiste de Transnistrie. Le Premier ministre moldave a expliqué ce matin avoir mis fin au chantage au gaz. Pour l'heure, Chisinau ne peut pas se passer de la centrale thermique de Kouchurgan située en Transnistrie qui fournit 70% de l'électricité à partir de gaz russe qui transite via l'Ukraine. Des milliers de Syriens en route vers la mosquée des Omeyyades à Damas. Ils ont été invités ce vendredi à célébrer la victoire sur le régime al-Assad dans les rues du pays. Ce vendredi, invitation lancée par Ahmed al-Sharaa, alias Abu Ahmed Jolani, le chef du HTC et nouvel homme fort du pays. Beaucoup d'inconnus demeurent quant à l'avenir du pays à reconstruire. Ce vendredi, les pays du G7 se rencontrent pour une visioconférence consacrée à la Syrie. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est lui depuis hier en visite en Turquie. Il a rencontré hier le président Recep Tayyip Erdogan et son homologue turc Hakan Fidan. Avec ses interlocuteurs, le responsable américain a surtout parlé de la Syrie. 5 jours après le renversement de Bachar al-Assad. Officiellement, Ankara et Washington, deux alliés au sein de l'OTAN, ont les mêmes priorités, la stabilité du pays et la lutte contre le terrorisme, mais leurs positions divergent sur le rôle des forces kurdes. À Ankara, les explications d'Anne Andlauer.
À Ankara, Anthony Blinken est bien sûr venu parler de transition politique en Syrie. Les États-Unis, comme la Turquie, ont intérêt à ce que celle-ci ne génère pas de nouveaux conflits. Les autorités turques, qui ont soutenu pendant 13 ans une partie des rebelles et discutent depuis des années avec Hayat Tahrir al-Sham, sont à ce titre un interlocuteur privilégié des États-Unis. Ankara et Washington donnent la priorité à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme. Mais ces mots n'ont pas le même sens dans les deux capitales. Anthony Blinken a insisté sur le groupe État islamique, dont les États-Unis craignent qu'il profite de la la situation pour gagner du terrain. Washington tient donc à ce que la coalition internationale poursuive sa mission contre les djihadistes. Mais leurs principaux alliés sur le terrain, les forces kurdes des YPG, sont considérés comme des terroristes par Ankara. Les rebelles pro-turcs ont d'ailleurs profité de l'offensive anti-Assad pour contraindre ces forces kurdes à quitter l'ouest de l'Euphrate. Nul doute qu'Anthony Blinken est donc aussi venu en Turquie pour lui demander de ne pas progresser à l'est du fleuve où quelques 900 soldats américains soutiennent les YPG. Réponse du président Erdogan, la Turquie prendra des mesures préventives contre tous les groupes terroristes. À Ankara, Anne Langlois pour Radio Vatican.
Le ministre israélien de la Défense demande à ses troupes de se préparer à rester tout l'hiver sur le plateau du Golan syrien. Israël avait conquis cette partie du désert après la guerre de 1967. Dimanche dernier, Tsahal s'était emparé de la zone démilitarisée. Le premier ministre libanais Najib Mikati a été lui reçu ce matin au Vatican par le pape François. Dans un communiqué, la salle de presse du Saint-Siège précise que les deux hommes sont revenus sur la situation économique et sociale du Liban, mais aussi l'absence prolongée de l'élection du président de la République. Ils se sont également félicités de la signature d'un accord de cessez-le-feu fin novembre. Le suspense a finalement pris fin à Paris il y a un peu plus d'un quart d'heure. L'Élysée a annoncé qu'Emmanuel Macron avait nommé son nouveau Premier ministre. Il s'agit du centriste François Bayrou. Une nomination qui intervient 8 jours après la motion de censure adoptée contre Michel Barnier par les oppositions au Parlement. Dans 48 heures, le pape sera en visite en France, en Corse plus précisément. La première pour un souverain pontife sur l'île de Beauté. Le Saint-Père viendra notamment clore un colloque sur la piété populaire en mer Méditerranée. Et à quelques jours de cette visite, un collectif local anti-mafia, Amafia no Avitale, interpelle François afin qu'il profite de sa venue à Ajaccio pour répéter ses paroles sans concession contre tous ceux qui pratiquent l'intimidation et la violence pour défendre leurs intérêts. Car notre île est sous une emprise mafieuse, nous explique le président du collectif Vincent Carlotti.
En Corse, la direction générale de la police judiciaire à Paris a inventorié 25 bandes armées, pas forcément politiques, d'ailleurs des bandes armées traditionnelles. Hein. C'est-à-dire que dans chacune des micro-régions corses, aujourd'hui, on peut identifier un groupe d'individus dont les actions visent à s'imposer dans un domaine et s'imposer par ce que les mafieux préfèrent, par l'intimidation. Soit par le meurtre, ça arrive, hein, y a des règlements de compte entre eux en particulier, ou des assassinats, ou des attentats. Mais le plus grave, c'est parce que c'est très difficile à déceler, c'est ce qu'on appelle nous l'intimidation. C'est-à-dire que pèse sur la société une espèce d'aura de menace, mais dont l'effet, c'est que les gens se taisent et n'osent pas dénoncer les pratiques qui enrichissent un certain nombre d'individus au détriment de la collectivité.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Le Conseil de l'Europe publie ce vendredi un avis très critique envers l'Italie concernant ses centres de rétention pour migrants. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil relève plusieurs cas d'allégations de mauvais traitements physiques et d'usage excessif de la force par des policiers italiens à la rencontre de ces migrants. Et puis concernant le sauvetage en mer, l'ONG Médecins Sans Frontières a annoncé stopper ses opérations en Méditerranée centrale, dénonçant des lois italiennes toujours plus restrictives à l'encontre des ONG de sauvetage. La Somalie et l'Éthiopie s'engagent sur le chemin de la réconciliation. Le 1er janvier dernier, la signature d'un accord de principe entre Addis Abeba et la République autoproclamée du Somaliland garantissant un accès à la mer Rouge à l'Éthiopie avait déclenché une guerre diplomatique entre les deux voisins. Mais voilà, une médiation turque a permis d'aplanir les litiges entre les deux voisins. La correspondance à Addis Abeba d'Augusti Passy.
Il aura fallu près d'un an pour que l'Éthiopie et la Somalie s'engagent sur le chemin de la réconciliation. Le 1er janvier 2024, Addis Abeba et le Somaliland ont signé un accord de principe qui garantissait à l'Éthiopie, pays enclavé le plus peuplé du monde, une base militaire navale et un port commercial sur la mer Rouge. Furieuse, la Somalie, qui n'a jamais reconnu la République autoproclamée, a expulsé l'ambassadeur d'Éthiopie et refusé que les militaires éthiopiens continuent à participer à la mission de maintien de la paix sur son sol. Les tensions s'étaient propagées au reste de la région, attisant les rivalités historiques de l'Égypte et de l'Érythrée avec l'Éthiopie. Après 2 échecs, la médiation turque a remporté un premier succès dans la soirée du 11 décembre. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont signé une déclaration prévoyant un accès fiable, sûr et durable à la mer Rouge pour l'Éthiopie, mais sous l'autorité de la Somalie. Les désormais ex-rivaux se sont engagés à respecter leur souveraineté mutuelle et à entreprendre des discussions en février 2025. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Voilà, et c'est sur cette bonne nouvelle que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera ce soir à 18h en direct de Rome en compagnie d'Alexandra Sirgan. Très bon après-midi.